Vous êtes bien sur Radio Albitzes, voici votre magazine. Et bonsoir, chers amis sportifs, bienvenue sur l'antenne de Radio Albiges pour votre Max Sport du 18 avril 2017, après ce long week-end de Pâques. Aujourd'hui, vous sera présenté les résultats sportifs du week-end avec du vélo sur route et sur piste, de la natation, mais aussi du Yosekan Budo, avec les championnats de France qui se déroulaient à Albi, et du rugby, bien sûr. Mais pour commencer, tournons-nous vers le rugby, d'où nous vient le chiffre du jour, 3. 3, comme le nombre de matchs restants au Sporting Club Albigeois, pour tenter d'endiguer une inexorable relégation en Fédéral 1. Ce vendredi, à 20h, au Stadium, se présente pour les Albigeois le match le plus important d'une saison qui restera comme celle de l'inconstance, tant sur le terrain que dans les coulisses. En parlant des coulisses, notre série rugbyistique, plus belle l'Ovalie, mêlant coup bas, coup de gueule, trahison, haine et lutte d'intérêt, continue avec son long cortège de rebondissements et de revirements de situation. Comme vous avez pu l'entendre jeudi dernier en exclusivité sur nos ondes, la direction des Jaunes et Noirs, par une missive envoyée au comité d'animation du SCA, remettait de l'huile sur le feu, et c'est peu de le dire, dans le bras de fer tendu qui les oppose aux supporters. Alors que ce feu, allumé il y a un an par la mise au ban des bénévoles par le conseil d'administration, puis entretenu par une saison chaotique tant en termes de résultats, que de la gestion des affaires courantes, affaires Mias, affaires Pemjas, déclarations contradictoires ou autres, s'étouffait peu à peu. Voilà que les dirigeants du Sporting, chahutés par les supporters il y a deux semaines pour la réception de Montauban, après que le président Castanet ait tenu de malheureux propos entre micro sur les comptes que ne pouvaient demander les supporters, entre autres, on l'écoute.
Les supporters ont lancé une pétition, qu'en pensez-vous?
Écoutez, j'étais pas au courant, puisque j'étais toute la semaine à Paris. Après, les supporters, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Je ne peux pas les empêcher de. Et je ne suis même pas au courant. Donc.
Ils demandaient un peu des comptes au conseil d'administration et un projet d'avenir.
Écoutez, je pense que s'il y a des gens qui doivent demander des comptes au conseil d'administration, c'est les gens qui mettent de l'argent.
Merci.
Eh bien, le président et ses comparses décident d'en rajouter une couche en tentant de faire passer les supporters pour la cause de tous les maux du club. Dans cette lettre signée d'un générique, le conseil d'administration, les dirigeants du SCA se font passer en victimes expiatoires, s'offusquant que les supporters aient commis le crime de lèse-majesté de crier haut et fort leur réprobation de la gestion actuelle par des banderoles et des chants à la gloire de leur action. Il est vrai que chanter... Donc je disais, il est vrai que chanter Castanet, démission doit sûrement être passible d'une sanction pénale très lourde pour justifier d'envoyer cette lettre en copie jointe au préfet, au commissaire, ainsi qu'à Madame le maire. Il est vrai aussi que le club a toujours entretenu une certaine proximité avec les autorités, mais il serait scandaleux qu'elle se transforme en partialité pénale ou en dérive arbitraire. Au passage, en parlant des autorités, je rappellerai pour la gouverne et la culture générale du conseil d'administration, qui a signé cette lettre, donc qui la cautionne, que monsieur le préfet n'est point un élu de la République, mais un représentant de l'État. Ceci est un détail, mais j'aimerais bien qu'il me fasse signe le jour où ils voteront pour élire un préfet. Comme on dit sur le web, lol. Mais bon, pour peu, à les écouter, ce serait bientôt la faute des supporters si d'aventure le club descendait en Pro D2. Ubuesque. Et là se pose quand même un sérieux problème, que nous, radio associative, libre et indépendante, nous fait bondir. Qu'est devenue la notion de liberté d'expression dans cette lettre, dirons-nous, quasi de menace? De mémoire, après les odieux attentats du 7 janvier 2015, qui avaient coûté la vie à 7 de nos confrères à Charlie Hebdo, pour avoir exercé leur liberté d'expression avec dignité et intégrité, si je ne m'abuse, tout le conseil d'administration du SCA était Charlie. Tout le conseil d'administration nous défendait notre chère liberté d'expression. Deux ans après, alors que la dite liberté d'expression s'exerce contre leur action au sein d'un club devenu lymphatique et que nombre de supporters ont jugé néfaste, les dirigeants du Sporting en sont maintenant devenus « je suis censure ». Et c'est là où cette réaction m'inquiète grandement. Moi, le fan de rugby, mais aussi de foot, qui a un peu navigué dans de nombreux stades et vu multiples comportements beaucoup plus exubérants. C'est savoir comment messieurs les administrateurs auraient réagi s'ils avaient affaire à un public aussi bouillant que celui de Mayol à Toulon, et qui commence à gronder dès que le RCT n'enchaîne pas deux victoires de rang, Comment auraient réagi les administrateurs face à la pression des supporters du Stade français lors de la tentative de fusion où les mots et les cris furent bien plus exacerbés que la protestation gentillette mais un brin énergique des supporters albigeois? Et surtout, comment auraient-ils réagi face à des débordements bien plus graves comme ceux qui se sont produits jeudi dernier au Parc OL et où l'on a vu un courageux président Aulas donner sa personne pour faire revenir le calme en tribune, ou encore s'il y avait eu des événements aussi pitoyables, je dis bien pitoyables, que ceux de dimanche à Bastia? À mon avis, il vaut mieux pas le savoir, ou peut-être aurait-il appelé le GIGN ou les fusiliers commando. Et c'est là où je commence à me demander si cette direction n'aurait pas le cuir que trop peu tanné et ne souffrirait-elle pas de lacunes en termes de culture sportive rédhibitoires pour diriger un club devenu, au gré des décennies, un véritable vecteur populaire. Dans tous les cas, les supporters outrés et révoltés de tant de menaces n'ont pas tardé à répondre dans un courrier daté du 13 avril qu'ils nous ont fait parvenir. Ils y donnent leur version des faits, s'opposant vivement sur l'amalgame qui a été fait entre leur entité, et une personne isolée qui a menacé de mort le président Castanet sur les réseaux sociaux. Je vous en fais lecture. Donc la lettre est adressée bien sûr au conseil d'administration. C'est une lettre de réponse au courrier du 6 avril 2007. Donc mesdames, messieurs, les propos injurieux tenus à l'encontre de M. Reynald Brunet, président du comité d'animation et supporters du SCA, ne sauraient être tolérés et justifient de notre part une mise au point. Vous parlez de spectacle désolant. Que s'est-il réellement passé? Des banderoles revendicatives et non injurieuses, des manifestations orales reflétant un mécontentement justifié? Est-ce la première fois que de tels événements se produisent dans un stade? Des supporters qui manifestent leur désaccord sur la gestion d'un club en France, cela s'appelle la liberté d'expression. Il n'y a eu aucune exaction et les services de sécurité ont pu intervenir pour récupérer sans violence ces banderoles. Qui plus est, vous imputez au comité la responsabilité de ces manifestations, alors que lors d'une réunion, non pas publique, mais des supporters déçus, le président Reynal a formellement demandé que la légalité soit respectée. Il est surtout désolant de constater l'état dans lequel vous avez mis le club, sans remords, sans état d'âme, essayant par des manœuvres fallacieuses de ne pas reconnaître votre responsabilité et de reporter la faute sur les supporters mécontents à juste titre. Enfin, sur votre inquiétude de voir au sein du comité d'animation des supporters du SCA et des intérêts particuliers prendre le pas sur l'intérêt général du club, nous pouvons vous tourner ces propos et souligner que ce sont bien les dirigeants et non le comité qui sont responsables de la situation actuelle du club que nous avons toujours servi avec dévouement en tant que bénévoles avant que nous ne soyons écartés. Nous vous prions d'agréer, madame, messieurs, l'expression de vos salutations distinguées, le conseil d'administration. Donc cette lettre du comité d'animation, on voit que c'est une réponse qui a le mérite de façon vive mais correcte de faire entendre leur colère tout en remettant ses interlocuteurs devant leurs responsabilités. On dira une pénalité partout, balle au centre. Mais en ayant rallumé une mèche quasi éteinte, le président et son conseil d'administration se sont bêtement quasi assurés de nouvelles manifestations des supporters pour la réception de Béziers vendredi. Mais dans cette atmosphère crépusculaire de fin de règne, il n'y a pas que les distensions avec les supporters qui font couler de l'encre et déclencher les grandes manœuvres. Au sein du dit conseil d'administration, l'humeur aussi est à la fronde, voire au putsch. En effet, selon nos sources, et comme nous vous l'annoncions il y a de cela 10 jours, un nom revient de plus en plus vivement dans les alcôves du château, celui de Louis Barré. L'ancien bras droit de feu, Jomir, à la nostalgie de l'Ovalie et aurait peut-être fait le tour de son mandat municipal après presque 2 décennies de bons et loyaux services. Comme nous vous l'annoncions il y a 10 jours, tout d'abord sondé par un président castanet aux abois et se voyant dans l'incapacité de gérer la crise au sein du club, de par une activité professionnelle assez chargée et parisienne, la mairie avait balayé la possibilité de mélanger les jarres en lui estreignant son adjoint en finances au redressement du club. Les menaces d'émission du président Castanet n'avaient pas fait bouger d'un iota Madame le maire, mais Louis Barré, ayant sûrement des fourmis dans les jambes, s'est agrégé, selon nos sources, très bien informé, il faut le dire, au contre-projet que monterait l'un des opposants notoires de la direction et du président du SCA, Jean-Marie Alberge. En effet, Jean-Marie Alberge, chef d'entreprise albigeois, étant pour le moment la courroie de distribution et de transmission entre le conseil d'administration et le sportif, ne goûte que très peu la gestion actuelle et se voit de plus en plus isolé face à une direction que certains décrivent comme bornée. De ce fait, il aurait entrepris de monter une nouvelle équipe avec, paraîtrait-il, l'aide de Serge Baudoira, ancien dirigeant du club, parti au début de la dégringolade du club, alors que venait se faire la relégation pour les deux, et surtout patron de la florissante Safra et amoureux invétéré du SCA. Dans cette optique, il verrait bien Louis Barré, toujours lui, prendre les manettes du navire, mais celui-ci serait soumis à une condition de Madame le maire, qu'il démissionne tout bonnement du conseil municipal. Mais là où les choses se corsent, c'est qu'à ce projet s'ajouterait une autre personnalité albigeoise. Olivier Brault, urologue de profession, mais surtout homme politique albigeois, notoirement connu pour avoir été un des dauphins de Philippe Bonnecarrère, et qui s'est écharpé dans un duel fratricide avec Madame Guiraud-Chomeil lors des dernières élections municipales pour la succession de l'ancien maire. Difficile d'y voir très clair dans cette bouillabaisse et compliqué d'imaginer l'adjoint de Madame Guiraud-Chomeil monter un projet avec son ennemi le plus farouche, Olivier Brault. Mais les volte-face politiques ne feraient pas Louis Barré, lui l'homme de gauche devenu de droite. Ce serait sûrement prêt à beaucoup de compromis et de digressions pour intégrer les hautes sphères d'un club qui est l'histoire de sa vie. Dans tous les cas, pour que ce projet soit mené à bien, il faudrait déjà que le président Jean-Jacques Castanet et la direction actuelle jettent l'éponge ou soient débranchés, ce qui n'est actuellement pas le cas. Mais il se dit que la mairie d'Albi, dont l'interventionnisme est assez unique en son genre dans le sport français, serait pas très loin de lâcher en rase campagne le soldat Castanet. En outre, il se murmurerait qu'aujourd'hui, en marge du conseil d'administration, se tiendrait une réunion de travail autour de Jean-Marie Alberge et des personnes si nommées Brault, Barré, Baudoura, accompagnées de gros investisseurs dont, d'après les chuchotements qui nous sont revenus, Pierre Brunery, des dirigeants de Faudet, Pierre Caer, patron d'Alkia, et, accrochez-vous, Didier Gardinal, ancien président de la CCI et ami proche d'Olivier Brault. Les mouches ont peut-être bel et bien changé d'âne et il se pourrait que le règne de Jean-Jacques Castanet sur le Sporting Club albigeois commence sérieusement à sentir le sapin. Surtout que, toujours selon nos informations, les familles Sirgue et Madère n'auraient pas mis leur veto qui aurait pu rendre l'entreprise hasardeuse. Quel projet de club prépare cette équipe ? En état de gestation, iront-ils jusqu'au bout ? Seul l'avenir le dira. Et aussi, quid de la venue d'Arnaud Mella, dans le cas où ce projet Alberge deviendrait le futur du SCA ? L'ancienne gloire du SCA, présentée comme un ami proche du président Castanet, qui n'a au mieux que signé un pré-contrat, enfin, on ne sait pas trop, serait-il conservé ? Surtout que certains critiquent déjà en interne la légèreté avec laquelle il endosse son futur costume de manager général du club. En outre, Jean-Marie Alberge, que certains joueurs ou membres du staff définissent comme, je cite, « le seul administrateur avec qui on peut encore parler », était aussi un des interlocuteurs privilégiés de l'idole du peuple jaune et noir, Vincent Clément. De là à ce que l'homme porteur du novateur projet SCA 17, sous forme de SIC, soit dans les cartons de ce projet que nous appellerons Alberge, je ne franchirai pas le pas. Quand on connaît un peu le personnage Vincent Clément, on sait qu'il est un homme intègre et de conviction, et donc il ne reviendra pas sans avoir l'assurance d'un projet de club structuré et structurant. Dans tous les cas, certains imaginent et essayent de dessiner l'après-Castanet. Affaire à suivre, mais faisons attention dans cette ambiance de fin d'ère, et que les luttes intestines qui grèvent le club depuis 30 ans ne fassent pas ressortir les cadavres des placards. Déjà, dans tout Albi, des membres de chaque corps d'influence se répandent. Les uns se demandent où sont passés les 80 000 euros d'indemnité de départ d'Hugo Mola, que devait verser le Stade Toulousain au CA. De nos sources, les deux clubs auraient procédé à un petit arrangement entre amis, où le Stade Toulousain fut loin d'être perdant. Mais du côté de la direction, là aussi, on sort les boules puantes, en demandant sur un ton badin, comment se fait-il que Pem Jas ne soit pas venu ? Quel est le rôle réel de la municipalité ? Et bien sûr, à qui n'est pas profité le crime ? Les théories du complot ne seraient pas loin. Mais, bon, à force de se savonner la planche et de se planter des couteaux dans le dos, sur fond de succession ou de trahison, les décideurs du Sporting, les notables albigeois, devraient faire attention qu'un de ces jours, les luttes d'intérêts qui opposent ces clans irréconciliables ne clôturent tragiquement un film qui tourne déjà à l'épouvante. Car ce club se meurt, faute de projet d'avenir, faute de projet sportif, faute de projet fédérateur. Mais si d'aventure certaines des allégations qui nous reviennent fréquemment aux oreilles étaient vraies, le processus de désintégration, voire de liquidation tant redouté du club, pourrait malheureusement s'enclencher. Surtout que, petit à petit, les joueurs effrayés par tant de turpitude signent un après l'autre dans notre club de Pro D2. Après Loïc Le Gall, c'est au tour de Nassoni Nakiri de rejoindre Nevers, tandis que Timaili Rokodourou partirait vers Boyonne. Mais l'hémorragie ne s'arrête pas là. Voilà que le middle, hier, annonçait que Romain Barthélémy était proche de s'engager avec Soyou Angoulême, alors que Daniel Faleafa serait en contact avec Colomiers. inquiétant quand on sait que le CCA, à l'heure actuelle, ne connaît qu'une seule recrue, Albert-Patrick Touetou, comparse briviste d'Arnaud Mella. De plus, du côté du staff médical, il serait à craindre que le docteur Démier jette l'éponge lui aussi, si cela n'était pas déjà fait, aggravant le long processus de délitement du SCA. C'est pour cela qu'il est nécessaire que les joueurs se battent avec le soutien de leurs supporters jusqu'au dernier souffle pour que sportivement, ce club reste en Pro D2 et puisse disposer d'une base sportive minimale lui permettant de surmonter tous les écueils et remous que risque de traverser en coulisses le Sporting Club albigeois. A défaut, la Fédérale 1 risque de devenir le linceul d'une entité centenaire démembrée faute de structuration. Mais faisons confiance à Julien Guillard et ses hommes pour mettre l'émotion et l'intensité nécessaires que demande un tel match à la vie, à la mort et au passage sauver leur amour propre. Mais pour conclure avec cette page sur le SCA, aussi pour consoler un brin des supporters qui se sentent bafoués, aussi pour appeler à la direction qu'à une époque une union sacrée existait en ce club, et surtout pour motiver des joueurs qui joueront le match de leur vie vendredi face à Béziers, nous allons revenir peut-être un peu par nostalgie aussi, mais aussi dans l'espoir de revivre un jour des émotions telles. Sur ce moment, c'était il y a 10 ans, en top 14, avant le coup d'envoi face à Biarritz, joueurs, staff, dirigeants et spectateurs chantaient en chœur, à l'unisson dans un stade comble, un vibrant secanto qui résonne encore avec force dans nos cœurs. On l'écoute. Magnifique, j'en ai encore des frissons, j'y étais, et je souhaite pour les plus jeunes d'entre vous, pour tous les amoureux de ce club, qu'un jour, on puisse encore vivre, revivre de tels moments de bonheur. Allez les abeilles, faites de nous de nouveau rêver, allez nous chercher cette victoire de l'espérance vendredi, on compte sur vous pour mouiller le maillot. Maintenant, passons aux résultats rugby du week-end. Alors tout d'abord, en top 14, le Castres Olympique s'est passé à Toulon pour un match capital dans son objectif de play-off. Et après de rocambolesques péripéties concernant son match en retard face au Stade Français, les Castrés venaient avec beaucoup de pression et d'ambition dans le Var ils ont malheureusement littéralement explosé en premier mi-temps pour être menés 20-0 à la pause. Après une causerie de Christophe Furios qui a dû faire vibrer les murs du vestiaire, les joueurs de Castres revinrent avec un tout autre état d'esprit et bougèrent totalement les rouges et noirs. Sur le second acte, les Castrés l'emportent 14-3, mais la première mi-temps catastrophique fut rédhibitoire. Et c'est donc logiquement, mais en ayant inquiété les Toulonnais jusqu'au bout, que les joueurs du CO s'inclinent 23-14. Mais les Castrés, fort déçus, et qui rétrogradent à la 8e place du top 14, pourront se rattraper dès demain à Pierre-Antoine, car ils vont enfin jouer le fameux match contre le Stade français, reporté il y a quelques semaines pour cause de grève des joueurs franciliens et qui a fait couler tant d'encre. Espérons que les Castrés arriveront à endiguer leur série de 4 matchs sans victoire face à des stadistes au bord de la relégation il y a quelques semaines, mais qui pointent dorénavant à la 6e place du championnat. Le contexte n'est plus le même, mais l'enjeu n'en est que plus grand. À LECO, demain à 20h45, une seule solution, la victoire, pour encore pouvoir rêver des demi-finales à Marseille et peut-être bien du Stade de France. En fédéral 1, c'est malheureusement infini pour Gaillac, qui a perdu son match de barrage à Villefranche-Lauragais, mais les armes à la main et avec les honneurs face à de coriaces au Garonnais. Avec cette défaite 19-15, la saison des Gaillacois est finie, mais elle sert de beaux souvenirs aux fervents supporters du Stade Laborie. En espérant les voir l'année prochaine jouer la montée dans une fédérale 2 qui devrait être largement remaniée. Passons maintenant au rugby à 13 avec la réception par l'Escure Artes du club catalan d'Entraigues ce dimanche. En plus de la victoire 42-14, l'Escurien était visible sur les réseaux sociaux via le média tarnais Radio Olympique TV qui propose de voir les matchs et les interviews d'après-match des clubs de rugby amateurs tarnais. Ce média rafraîchissant permet aux Tarnais de pouvoir être toujours plus proche de l'actualité rugbystique de notre département. Bravo à Radio Olympique TV pour la qualité de ses retransmissions et la convivialité de leurs propos. Vous pouvez les retrouver sur Facebook et je vous invite à les suivre. Maintenant passons aux brèves. Donc une petite brève cyclisme avec tout d'abord Lilian Calmejean qui ce week-end ne nous a pas de nouveau ramené la victoire de ses premières classiques ardennaises, mais qui a été remplacé sur les podiums, mais ce coup sur piste à Hong Kong, par le jeune vauréen Benjamin Thomas qui vient d'être sacré champion du monde de l'Omnium. Avec cette première reconnaissance internationale chez les seniors, notre jeune champion tarnais fait une entrée fracassante dans le Gotha du cyclisme sur piste. Nous lui transmettons nos plus sincères et chaleureuses félicitations et espérons avoir de très très bonnes nouvelles de lui très bientôt. Alors nous allons maintenant passer aussi dans les brèves avec une petite annonce avec l'association Marsac Aventure qui organise sa traditionnelle randonnée VTT nocturne de 28 km le 28 avril 2017 à 20h30. Les inscriptions se feront à 19h45 et la participation sera de 5 euros. Vous pouvez contacter le club au 06 30 58 27, 29, et n'hésitez pas à vous déplacer à Marsac pour venir soutenir les vaillants participants de cette rando nocturne. Autre petite brève en natation, avec les filles du sauvetage sportif d'Albi, qui ont été titrées championnes de France avec brio. Bravo à Marie-Sam, Manon Marco et Maëlle Peter de porter aussi haut les couleurs du nautisme tarnais. Et maintenant, pour finir, passons à l'événement ce week-end, avec les championnes de France de Yosekan Budo, au Parc des Expos d'Albi. L'organisateur, Frédéric Taillade, peut se targuer d'une organisation au cordeau et d'une manifestation qui fut une belle réussite. Côté sportif, les clubs d'Arnais furent à l'honneur. D'abord, chez les hommes, à moins de 90 kg, Maxime Duchadeau, albigeois licencié à Castres, décroche la médaille d'argent et devient de ce fait le nouveau vice-champion de France. Mais le Yosekan Abidjan n'était pas en reste, car chez les cadets, Matteo Attia s'est emparé du bronze et conclut brillamment une édition des champions de France qui a émerveillé le public jeune ou moins jeune, albigeois, peu habitué à assister à des manifestations aussi spectaculaires et avec un tel niveau sportif. Encore bravo aux organisateurs, à la fédération ainsi qu'aux bénévoles, et en espérant que cette belle réussite leur donne des idées pour organiser dans le futur de nouveau ce genre d'événement fort agréable dans notre beau département. Ce mag touche à sa fin, merci à Will pour la technique. Nous nous retrouverons jeudi pour de nouvelles informations sportives du Tarn et d'ailleurs. Je vous dis à Desias et à jeudi 12h30. We'll be right back.
s'écoute.